Bien, professeur Philippe Kourilski, je ne te présente pas au Collège de France ni au public du Collège de France. Tu y as enseigné pendant 14 ans. Tu étais titulaire de la chaire d'immunologie de 1998 à 2012. J'ai eu l'honneur de travailler à tes côtés. J'ai beaucoup appris de toi dans le cadre de ton rapport à trois ministres sur les questions de recherche pour le développement dans le domaine des maladies infectieuses. Après une carrière au CNRS, tu as été directeur général de l'Institut Pasteur. Tu es membre de l'Académie des sciences, auteur de plusieurs rapports très importants au gouvernement, aussi sur le principe de précaution. Et vous verrez la suite sur le site internet du Collège de France, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup de publications, plus de 300 publications que le professeur Kourilski a rédigé. Et aujourd'hui, professeur Kourilski va nous apporter son éclairage, sa réflexion sur l'éthique de la pauvreté. Merci beaucoup d'être là ce matin.
Merci Dominique. Merci, professeur Jatellini, de ces éclairages très importants sur un problème qui touche effectivement à l'éthique, gravement à l'éthique. Qui suis-je pour vous parler d'éthique ? La réponse est personne. Je suis l'un d'entre nous, quelqu'un qui essaie de réfléchir un peu aux choses et qui, ayant été exposé à un certain nombre de réalités, ne peut pas s'empêcher et ne souhaite pas s'empêcher, bien entendu, de les analyser. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sans grande structure, je dois dire, c'est vous livrer un certain nombre de réflexions qui m'animent sur les questions d'éthique au sens large et sur ce qui touche à la lutte, à la pauvreté, à la lutte contre la pauvreté. La première chose, c'est qu'il faut déjà être conscient que la question de la définition de la pauvreté est en soi un problème. Vous savez tous que dans les pays en développement, on utilise des seuils, alors que dans les pays en développés, on utilise des courbes de distribution. Ni l'un ni l'autre n'ont grand sens, à vrai dire. Évidemment, il y a des seuils de pauvreté. C'est clair qu'à moins d'un dollar par jour, ça doit être quand même très, très difficile de vivre. Mais il est fort possible que dans certains environnements, à moins de 3 dollars par jour, on n'arrive pas à vivre non plus. Donc c'est pas du tout une norme facilement acceptable. La question de la définition des pourcentages, par exemple, les pauvres en France, c'est ceux qui gagnent X% du salaire moyen, etc., etc. C'est encore extrêmement contestable et il faut analyser cette définition puisque, en réalité, ça nous ramène à une autre approche de la pauvreté qui est l'analyse des courbes de distribution des richesses. Et vu sous cet angle, évidemment, là, il y a tout un axe de réflexion et de recherche pour analyser la déformation de ces courbes dans le temps et pour analyser, par exemple, la question de savoir si un pays se rapproche d'une meilleure, à mon sens, égalité sociale en matière de distribution des richesses ou pas. Et ce que nous observons, bien sûr, c'est qu'en France, et encore plus aux États-Unis, les courbes ne sont pas bonnes. En gros, l'écart se dilate et donc, dans une certaine manière, la pauvreté s'accroît, qu'il s'agisse d'une pauvreté absolue en termes de pourcentage, donc, mais surtout de distribution qui montre qu'on ne va pas tellement dans le bon sens. Je vous mentionne qu'il y a un siècle, un certain Georg Simmel avait élaboré une définition de la pauvreté qui était d'une toute autre nature. En gros, la pauvreté, c'était défini par le pauvre qui a besoin d'être aidé. Et donc, on passe dans une catégorie totalement différente, qui est celle de la reconnaissance du fait que certains d'entre nous ont besoin d'une aide. Et là, on rentre dans des définitions dont la substance est complètement différente et qui nous oriente vers d'autres formes de réflexion. L'importance de cette définition du pauvre qui a besoin, le pauvre entre guillemets, hein, qui a besoin d'une aide, c'est que ça intègre le pauvre dans la société, tandis que les définitions chiffrées peuvent l'en exclure. Donc, si vous voulez, il faut faire très attention à ces définitions, en ce sens que, d'un côté, on peut dire bon, il y a une catégorie de pauvres. Voilà, on a 5% de pauvres. Et donc, qui s'en occupe ? Est-ce que c'est le rôle de la nation de s'en occuper ? Et culturellement, bien sûr, les questions sont débattues de différentes manières dans différents pays. Et bien sûr, la question suivante, c'est est-ce que nous avons, nous, à nous occuper des pauvres en Afrique ? Est-ce que c'est notre boulot ? Et donc, la conception et la définition de la pauvreté ne sont pas du tout innocentes. S'y rajoutent bien sûr les conceptions telles que les défend, les a promues, plus que défendues Amartya Sen, de la pauvreté et d'autres, de la pauvreté comme étant une perte de liberté. Et la question, par exemple, que le chômage, même s'il est vécu comme un. Comment dire, même s'il est soutenu par un certain nombre de subventions, est une perte de liberté, quelque part un accroissement de la pauvreté, même si l'individu n'est pas dans la pauvreté, dans la misère physique totale. La pauvreté et la lutte contre la pauvreté, il faut aussi, je pense, regarder les motivations. Les motivations humanitaires et compassionnelles sont essentielles, nous les connaissons tous, mais il n'y a pas que celles-là. Il y a des motivations pragmatiques qui sont de différents types. J'en cite deux qui sont principales. L'une, c'est la création des nouveaux marchés. Donc on lutte contre la pauvreté parce qu'on sait que derrière, il va se créer de nouveaux marchés. Et donc il y a une préoccupation économique qui peut avoir son sens et qui n'est pas condamnée a priori. Il faut voir évidemment dans quelles conditions cela se fait. Vous avez également une optique à laquelle Dominique a fait allusion, qui est l'optique sécuritaire. Il est absolument certain que la question de la sécurité et de l'équilibre du monde par rapport à un accroissement des inégalités ou un accroissement ou une massification de la pauvreté est un véritable sujet. Il faut bien voir que, dans ce cas, l'intérêt bien compris des peuples, y compris des riches, est donc de lutter, d'améliorer la sécurité du monde et donc de lutter contre la pauvreté. Là encore, ça n'est pas une motivation pécamineuse. Elle me paraît tout à fait logique, légitime. Elle a ses mérites. Elle a les mérites de mobiliser des ressources et des énergies. Elle a les mérites également de mobiliser quand même les intelligences et une certaine puissance analytique vers des objectifs qui sont réalistes. Je vous donne un exemple qui me vient d'ailleurs de Henri Rouillé-Dorfeuille, que certains connaissent, et qui m'a éclairé sur un point qui m'avait totalement échappé, qui est le suivant, c'est qu'en fait, le problème majeur à venir de la pauvreté, c'est probablement l'agriculture. Pour l'excellente raison que la mécanisation de l'agriculture va créer probablement 1 milliard de chômeurs. Donc 1 milliard de pauvres en puissance. Et c'est un problème absolument colossal qu'il y a intérêt à réfléchir, à rationaliser, de façon à trouver ou essayer de trouver des solutions convenables, mais que l'on ne peut pas aborder sous l'angle de la pauvreté stricto sensu, puisque c'est à venir et que si l'on n'a pas compris et réfléchi, ben on arrivera comme les carabiniers après une triste bataille où il y aura énormément de pauvres sur le carreau. Donc je pense que ces réflexions, encore une fois, économiques, enfin pragmatiques, en termes d'économie, en termes de sécurité, ont leur valeur. Le problème, bien sûr, c'est qu'elles ne doivent pas être menées n'importe comment et que nous savons bien qu'il peut y avoir des dérives éthiques monumentales à ce propos. À titre d'exemple, j'ai eu connaissance d'événements un peu étranges, disons à la suite du 11 septembre, où, sans donner des détails que je ne suis pas censé pouvoir donner, les États-Unis ont cherché à mener des essais cliniques pour des nouveaux médicaments qui les protégeraient d'attaques terroristes essentielles dans des pays en développement et dans des conditions éthiques totalement inacceptables. Donc, si vous voulez, la dérive peut se produire à peu près où et n'importe quand. En matière économique, bien entendu, nous connaissons tous le problème du marché. C'est le marché au bénéfice de qui? Si c'est au bénéfice des peuples ou au bénéfice des multinationales ou de peuples qui, finalement, colonialisent, sont les nouveaux colonialistes, comme on le sait avec le problème de l'achat des terres, qui est un problème extrêmement perturbant et préoccupant. Donc le problème, c'est bien que ces investissements, ces créations de marchés et même ces optiques sécuritaires soient mobilisées en partie au moins et en large partie, bien sûr, au bénéfice des pays. Je voudrais maintenant traiter avec vous un problème qui est auquel je tiens beaucoup, qui me préoccupe considérablement, qui est celui des actions caritatives et de la philanthropie. Quand on regarde, je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin, dans le monde, il doit y avoir peut-être 10 millions d'ONG. Il y en a déjà 3 millions en Inde. Bon, donc ça fait déjà beaucoup. Alors l'Inde, c'est un peu particulier, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ONG. Alors entre 5 et 10 millions. Allez. Ces ONG mobilisent probablement des centaines de millions de personnes, sans compter bien sûr les acteurs locaux qui opèrent dans la lutte contre la pauvreté ou des actions de type social, disons, au sens plus large. Cela se produit dans les pays en développement, mais bien entendu, et cela a été dit, nous ne sommes pas exempts dans nos pays dits occidentaux et dits civilisés et dits développés, nous ne sommes pas exempts et de loin de problèmes de pauvreté et de sécurité et de précarité. Pour vous donner un exemple, nous avons en France, je crois, 1 100 000 associations, 1901. Alors vous en avez 800 000 qui gèrent des clubs de foot. Bon, OK, hein, ça sert à gérer, voilà. Finalement, certains clubs de foot ont un rôle un peu social, mais je pense qu'il y a, encore une fois, sans avoir des chiffres, et je rejoins Dominique Arouédan, je crois que ces chiffres ne sont en fait même pas connus. Je crois que c'est vraiment des connaissances qu'il faudrait dégager et qu'on n'a pas. Je pense qu'il y a probablement 100 000, 150 000, j'en sais rien, associations 1901 qui font de l'action sociale. Donc, en France, nous avons nos ONG, et pas seulement les grandes, hein, pas seulement Médecins du Monde, pas seulement etc., pas seulement la Croix-Rouge française, pas seulement le Secours catholique. Nous avons plein d'ONG sous forme de ces associations 1901 qui font de l'action sociale. Donc, en gros, nous sommes dans un système où, que ce soit dans les pays développés, dans les pays en développement, il y a des sommes colossales et toujours insuffisantes qui sont investies dans des conditions que l'on ferait bien d'analyser pour vérifier au moins que l'efficacité du système fonctionne. Alors, je vais revenir sur ce point, mais je voudrais d'abord vous expliquer mon point de vue sur ce que j'appelle la juste, entre guillemets, la juste place de la philanthropie. La philanthropie, c'est très important, mais le problème, c'est de substituer la philanthropie au rôle de l'État, au rôle de la puissance publique, disons. Donc, jusqu'à quel point, où se trouve l'équilibre? Je vous donne l'exemple des États-Unis, qui fonctionne très, très loin de l'État-providence que nous connaissons et dont nous connaissons malheureusement les difficultés aujourd'hui en France, mais la notion d'État-providence est totalement différente aux États-Unis. Enfin, on en est très, très loin. Je pousse un peu à l'extrême et pour dire que, finalement, réfléchissez au fait que l'une des conséquences des théories politiques ultralibérales, dans lesquelles le rôle de l'État est minimisé, le rôle de l'action sociale est minimisé. Et finalement, on reporte sur le citoyen et sur son appétit philanthropique le soin de s'occuper des autres. On peut dire dans ce cas-là que la philanthropie fait effectivement le jeu de l'ultralibéralisme aux États-Unis. C'est fraîchement ce que je crois, et d'ailleurs j'en tiens pour preuve un élément tout à fait intéressant, c'est que l'un des mécènes les plus généreux, et qui d'ailleurs a fait des choses tout à fait remarquables, qui s'appelle Bill Gates, qui a donné une partie considérable de sa fortune, considérable, pour, dans une fondation qui fait beaucoup, beaucoup de choses et qui a fait beaucoup de choses, dont on peut calculer d'ailleurs qu'elle a économisé plusieurs millions de morts aujourd'hui, donc une fondation qui a fait vraiment du bien. Bill Gates, avec un certain nombre d'autres petits camarades milliardaires, a appelé le gouvernement des États-Unis à augmenter les impôts. Je ne crois pas qu'il y ait de reconnaissance plus claire du fait que la philanthropie ne suffit pas. Et je pense qu'il y a un élément de réflexion très important à avoir en termes de réflexion politique sur la juste place de la philanthropie. Ce qui m'amène à un deuxième développement, qui est celui de la question de la juste place de la générosité. Et là, je crois que... Alors là, je vais faire référence de façon un peu égocentrée à mes ouvrages, mais je crois que mes réflexions sur l'altruisme et sur ce que j'appelle aujourd'hui l'altruité ont vraiment un sens relativement important. L'altruité, pour moi, c'est un devoir qui est associé au droit à la liberté. Je ne vais pas vous emmener dans les développements philosophiques qui justifient cette assertion, mais je voudrais faire la distinction suivante. L'altruité, c'est le devoir que chacun d'entre nous a de faire attention aux libertés individuelles des autres, au sens d'Amartya Sen, puisque ces libertés individuelles nous aident à nous construire. Donc nous avons le devoir ici. Ce devoir, il est froid. Il n'a rien à voir avec la générosité. La générosité est beaucoup plus dans l'ordre du sentiment, mais surtout, elle est dans l'espace des libertés. Et donc, la liberté, on est libre d'être généreux ou pas. Personne ne vous engueule si vous n'êtes pas généreux. Enfin, vous n'avez pas d'obligation d'être généreux. Donc, non seulement vous pouvez donner ou pas donner à un pauvre, une entreprise, une ONG, etc. Et de l'autre, vous êtes aussi libre de la dévolution du don. Et j'aime poser cette question un petit peu perturbante. Que se serait-il passé si Bill Gates avait aimé la peinture ? Il aurait donné son fric à des musées, etc. Et donc, on aurait eu sur le dos, si j'ose dire, plusieurs millions de morts que les œuvres de la Fondation Gates sont évitées. J'en tiens un argument pour dire ceci, c'est que, un, la générosité ne peut pas tout régler, que, deux, la question d'un devoir d'altruité est une question totalement essentielle, et que, trois, la générosité ne doit pas être utilisée comme alibi par certains systèmes qui, en gros, l'instrumentalisent de façon à la... à se débarrasser, disons, de quelques problèmes sociopolitiques gênants et difficiles à régler. Je crois que c'est tout à fait important et de bien réaliser que ces devoirs que nous avons sont essentiels, y compris d'ailleurs au niveau politique. Et pour rappeler par exemple que une des lectures de ce qui se passe dans les pays islamiques est évidemment que l'État étant déficient vis-à-vis des systèmes sociaux, ce sont bien sûr les communautés religieuses qui, de façon souvent extraordinairement efficace, généreuse et utile, contribuent au bien-être des situations, des populations. D'où résulte bien sûr un certain prosélytisme associé à l'action religieuse. Mais il est absolument exact que l'islamisme est en partie fondé sur la déficience des États à remplir le rôle social. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener dans ce sens. Maintenant, ma dernière série de points traitera d'une autre question qui est celle de ce que j'appellerais une éthique de la rationalité. Comme je vous l'ai dit, la générosité ne suffit pas, et je pense qu'il y a d'autres dimensions éthiques, bien entendu, que nous connaissons tous, qui sont plus de l'ordre de la rationalité, qui ne s'opposent absolument pas à toute émotion et sentiment d'empathie de action de générosité, bien entendu, mais qui la complémente et qui stabilise un système qui, sinon, ne peut pas être stable. Et je vais prendre plusieurs exemples. Alors, je vais prendre déjà un exemple qui est bien connu, mais qui est celui des maladies négligées. On peut rationaliser le problème des médicaments pour les maladies négligées en termes non pas d'utilisation des médicaments existants, encore que on puisse en parler, encore que pour moi d'ailleurs ça a été un déclencheur. Le jour où il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais dans mon labo en train de travailler sur les nouveaux vaccins, des machins chauds, etc., j'ai compris ce que j'aurais dû savoir depuis longtemps, qu'il y avait un vaccin contre la rougeole qui coûte rien, qui est stable, qui n'a pas de problème de chaîne du froid et tout, qui coûte un centime d'euros à peine, et qui, faute d'être distribué, faisait ou laissait la rougeole être encore, il y a 20 ans, un problème de santé publique épouvantable avec 800 000 enfants morts par an. Là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, pour moi, ça a été un déclencheur. Mais en matière de nouveaux médicaments, la recherche sur les nouveaux médicaments pour les maladies négligées est quand même en partie, disons, visqueuse. Elle n'est pas bloquée complètement, mais elle est visqueuse. Pourquoi ? Elle est visqueuse parce que, à la louche, hein, dans un médicament, vous avez 10-20% qui est de la recherche et 80-90% qui est du développement. Bon. La recherche, on est libre de la faire plus ou moins. Les institutions de recherche, l'Institut Pasteur est libre de faire de la recherche à peu près. Il croit qu'il l'est, il est peut-être un peu moins parce qu'il dépend quand même de financement, etc. Mais enfin, en gros, voilà. Et donc, si on veut faire de la recherche sur le palu à Pasteur ou sur la bilharziose ou des maladies tropicales, on peut. Le problème, c'est le développement. Parce qu'aujourd'hui, développer un médicament, c'est, à la louche encore, 1 milliard d'euros. Donc une nouvelle molécule, c'est 1 milliard d'euros. Alors, pour justifier un investissement d'un milliard d'euros, il faut un marché. Donc, si le marché, c'est des pauvres qui ne peuvent pas payer, ben, vous n'avez pas de marché, donc vous n'avez pas de médicaments. C'est aussi bête que ça. À partir de quoi, vous avez bien sûr une analyse de la situation qui peut être un peu plus maligne que celle-là et qui cherche à comprendre et à voir ce qu'on peut faire. Alors, oui, l'analyse, on peut la mener. On peut la mener de plusieurs manières. Mais toutes les manières, finalement, convergent vers un certain nombre de points très simples. L'un des points, c'est de se demander qu'est-ce qui justifie qu'on dépense 1 milliard d'euros pour développer un médicament. Et l'une des raisons qui est très mal connue et qui encore mériterait d'être analysée, on n'a pas le savoir réellement, l'une des raisons, c'est que finalement, pour développer ces médicaments, on dépense des fortunes, en partie à cause d'une espèce d'application généralisée du principe de précaution. Et deuxièmement, parce que le poids des réglementations n'est pas mesuré. Donc là, je ne peux vous donner que des impressions, je n'ai pas de chiffres. Moi, je dirais que je ne serais pas surpris si dans le milliard d'euros en question, il y ait la moitié qui soit liée à des réglementations plus ou moins utiles. Je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut décroître le niveau de sécurité des médicaments. Je dis simplement que si on peut faire aussi bien avec deux fois moins d'argent, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Le seul problème, c'est que quand vous voyez les examens de toxicologie, par exemple, qu'on fait pour développer un certain nombre de médicaments, on vous fait faire des tapés de trucs sur la souris, etc., donc on sait que ce n'est pas prédictif chez l'homme. Donc, quand même un petit sujet de logique là, qui interpelle. Et il y a plein de choses comme ça. Alors, vous allez me dire, mais depuis qu'on a la documentation électronique, tout va mieux. J'ai travaillé dans le vaccin un certain temps, un peu de temps, mais 3 ans, et je me souviens qu'à l'époque, pour enregistrer un nouveau vaccin en France, on appelait la camionnette, parce que les dossiers d'enregistrement, il y en avait 2 mètres cubes, je crois. Donc, c'était du papier. Alors, boum, 2 mètres cubes dans la camionnette, ça partait vers les autorités de santé qui mettaient 1 an à analyser le truc. Donc ça prenait du temps. Aujourd'hui, tout ça est fait en électronique, mais j'ai demandé à des anciens collaborateurs, oui, mais ça représente combien? La réponse, c'est que ça représente 10 mètres cubes. Donc l'électronique n'a pas servi à simplifier le truc, ça a servi en fait à complexifier encore le processus. En tout cas, le message ici, si vous voulez, c'est que nos règles sont extrêmement contraignantes. Bon. Elles le sont certainement légitimement pour une partie d'entre elles, mais enfin, on n'a peut-être pas fait l'élagage complet du dispositif. Le résultat, incidemment, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le temps. Il faut aujourd'hui, pour vous donner un exemple, et tous les laboratoires de l'INSERM connaissent ça, vous voulez faire un essai clinique de phase 1 parce que vous avez eu des résultats brillants qui méritent que, etc. En gros, si vous n'avez pas quelques millions d'euros sous la main et 2-3 ans devant vous, vous n'arrivez à rien. Et après ça, vous avez 10 ans de développement avec 1 milliard d'euros, à la louche, encore une fois. Donc, on est dans un système où les fondements du système sont compliqués. Et le problème, c'est que, premièrement, on voit, ça c'est un problème de pays développés, mais ça nous touche tous, on voit qu'on est dans la loi de Moore inversée, alors qu'en informatique, tous les 7 mois, en gros, on multiplie par 2 la puissance des systèmes informatiques. Dans le médicament, on est dans le truc, hein, dans la démarche inverse. Tous les 2 ou 3 ans, le nombre de nouveaux médicaments diminue d'un facteur 2. Alors que la science n'a jamais été aussi explosive, si je peux dire, en termes d'acquisition de connaissances nouvelles. Il y a un vrai problème. Bon. Alors, je ne dis pas que mettre en cause la réglementation est l'unique facteur. De loin, ça ne l'est pas. C'est peut-être même un facteur mineur. Je dis simplement qu'il y a intérêt à y réfléchir. Avec plusieurs implications. L'une des implications, c'est qu'à partir du moment où vous avez des traitements, des nouveaux traitements pour certains anticancéreux, c'est 100 000 euros par an et par tête de pipe. Notre pauvre sécurité sociale commence à tirer la langue. Mais pensez maintenant à l'exportation de ces nouveaux médicaments dans des pays en développement, terminé. Il n'en est absolument pas question, bien entendu. Et à un moment, d'ailleurs, j'ai souvenir, je crois, que le Brésil, après Doha, et après les réglementations sur les antirétroviraux pour le sida, donc une certaine libération ou libéralisation du problème des brevets, avait posé la question pour les anticancéreux en disant « Attendez, il n'y a aucune raison que nos gens meurent de cancer plutôt que du sida, donc le problème est le même. Où est-ce qu'on va avec ce système ?» Donc, il y a un énorme sujet derrière cela. Autre sujet, c'est que finalement, d'une manière ou d'une autre, on exporte nos normes. Et donc, si vous voulez, les normes internationales en matière de médicaments font autorité. Elles font autorité. Donc, vous avez d'un côté la FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe, qui, en gros, sont d'accord sur à peu près tout. Et non seulement sont d'accord, on peut dire qu'elles font plus ou moins de la compète. C'est à qui sera le plus rigoureux, en rajoutera un truc, et ça se comprend. Vous avez un médicament. Donc la mécanique est comme ça. Vous avez un médicament. Bon. La puissance analytique pour trouver des impuretés est multipliée par 10 parce qu'il y a un nouveau spectromètre de masse qui fait que vous détectez une impureté, etc. Que dit le régulateur? Il dit « enlevez-moi ça ». Bon, il y a 10 ans, il ne le disait pas, il y a 2 ans, il ne le disait pas, maintenant, il le dit. Ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Bon, qui sait? Bon. Mais ça se fait, et donc les coûts augmentent, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a de plus en plus de trucs. Donc, le problème se pose. Et d'un autre côté, l'exportation de ça dans les pays en développement est absolument désastreuse, dans la mesure où ils se sentent obligés d'appliquer ces normes internationales alors qu'ils n'ont pas les moyens de les appliquer. Et ils se sentent interdits de fabriquer des médicaments à leur mesure au motif qu'ils seraient moins sûrs que les médicaments occidentaux que nous avons. Ce qui est un vrai sujet sur lequel je reviendrai pour terminer dans 3 minutes. Juste pour vous dire qu'à ma connaissance, je pense qu'il y a un pays qui est en train de faire exploser le système, et je crois que ça va être tout à fait intéressant, c'est la Chine. Et la Chine le fait parce que le marché chinois, le marché intérieur, est largement suffisant, vous l'imaginez, pour développer des médicaments. Et deuxièmement, parce que les responsables chinois disent, écoutez, nous avons des millions de gens qui meurent faute de médicaments, nous n'avons aucune raison de suivre vos normes, c'est notre problème, nous décidons pour nos citoyens, et en plus, si nous pouvons aller plus vite, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas plus vite. Il n'y a aucune raison que nous nous encombrions de règles qui vous paraissent raisonnables et qui nous ne nous paraissent pas raisonnables. Et donc, si nous pouvons développer des médicaments en 7 ans au lieu de 10 pour le tiers de la somme que vous affichez, nous sommes légitimes, et je pense qu'ils sont parfaitement légitimes. Mais le résultat de ça, que l'on verra dans quelques années, je pense, c'est qu'un certain déséquilibre pourrait s'installer entre des différents systèmes internationaux de développement des médicaments et finalement coûter fort cher aux Occidentaux en termes de compétitivité pour les médicaments qu'ils veulent eux-mêmes développer. L'avenir le dira. Mais cela me permet de faire la transition avec cette question fondamentale de la légitimité. Qui est légitime pour décider de ce qu'il doit faire en matière de normes, de médicaments et d'utilisation des médicaments chez lui? Moi, j'ai un point de vue qui est simple, peut-être simpliste, mais c'est quand même au pays de décider eux-mêmes. Mais ça pose des problèmes d'éthique que l'on résume, si vous voulez, sous la forme suivante. La question est de savoir s'il y a une éthique universelle ou si l'éthique est contextuelle. L'éthique contextuelle, c'est-à-dire qu'un pays donné définit ses règles, les applique en fonction de processus que l'on espère démocratique, suffisamment informé pour ses propres citoyens, etc. L'éthique universelle, c'est de dire attention, attention, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, etc. Mon point de vue, c'est que il y a deux types de règles. Il y a des règles universelles et d'autres qui ne le sont pas. Et que c'est idiot de parler d'éthique universelle ex abrupto sans autoriser des secteurs où l'éthique est contextuelle. Et donc, pour conclure, je vous donne cet exemple très connu et très perturbant, qui est celui du vaccin contre le rotavirus, dont certains avaient certainement entendu parler. Mais je le résume parce que c'est un trop bel, enfin, trop dramatique exemple. En 1998, une société américaine qui s'appelle Wyeth développe un vaccin, enfin, il met sur le marché un vaccin contre le rotavirus, qui aux États-Unis est une maladie, donc c'est un virus qui cause de la diarrhée infantile, et aux États-Unis, le marché était défini non pas par les morts, une cinquantaine ou une centaine de morts par an, ce qui est toujours trop, mais ce n'est pas, des centaines de milliers, mais le marché était défini par les jours d'hospitalisation. Et donc, les gamins sont hospitalisés parce qu'on ne sait pas quoi faire, et donc, voilà. Donc, ça fait des jours. Donc, le vaccin est mis sur le marché, et puis, un an après, les premières études de vigilance montrent qu'il y a un léger supplément d'accidents qu'on appelle l'intussusception, qui est une complication intestinale chez les vaccinés. La société retire le vaccin sans qu'on lui ait demandé. Très bien. Elle le retire pourquoi ? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, le système est tellement judiciarisé qu'avec une vague de procès, vous mettez une entreprise, même une grosse boîte comme Merck, vous la mettez à genoux. Donc, ou pas. Oui, donc, il retire le vaccin. Très bien. Alors, ce qui est ironique, c'est que c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'un an plus tard, les études de vigilance ont montré que c'est une espèce de blip dans les statistiques et qu'en fait, ce n'était pas vrai. Donc, en fait, les chiffres étaient trop petits, il n'y avait pas assez de trucs et que, en fait, on a terminé avec l'idée que le nombre d'accidents était légèrement inférieur chez les vaccinés que dans la population non vaccinée. Donc, cette histoire d'intussusception était... Donc, le vaccin était retiré à tort. Mais l'autre chose qui est vraiment plus interpellante, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, pour en reparler, n'a pas jugé bon de recommander de redévelopper le vaccin pour les pays en développement. On ne pouvait pas l'utiliser tel quel, on pouvait quand même le redévelopper. Il y avait toute une méthodologie, on savait que la société avait bossé 10 ans pour faire ce truc, Et donc, il y avait plein de choses. Il fallait quand même changer un peu les sérotypes, refaire quelques essais cliniques, etc. Mais le vaccin était redéveloppable. Donc, l'OMS n'a pas recommandé de redévelopper le vaccin. Donc, le vaccin, il a été enterré. Puis, ce qui s'est passé depuis, c'est que deux autres boîtes ont redéveloppé un vaccin, l'ont testé directement, d'ailleurs, dans des pays en développement. Finalement, il y a deux vaccins contre le rotavirus qui sont arrivés, qui marchent très bien et qui soignent le rotavirus. Et maintenant, le rotavirus commence à diminuer, etc. Néanmoins, je vous demande de réfléchir à la chose suivante. Deux choses, en fait. La première, c'est que la décision prise par l'OMS l'a été, semble-t-il, après des réunions de groupes de travail et de commissions, où on a dit qu'il y avait une quarantaine de personnes. Et comme par hasard, dans les 40 personnes, il y avait deux représentants du Sud. Tous les autres étaient européens, américains, etc. Donc ces braves gens ont conclu que ce qui n'était pas valable pour un petit Américain ne saurait être valable pour un petit Africain. Scandale. OK. Problème, c'est qu'on peut calculer, dans le même temps, le dit rotavirus, avec les complications des maladies rotavirus, tuait plus de 500 000 enfants par an. Donc, si vous voulez, on peut calculer, alors c'est un peu excessif, mais on peut calculer que dans les 4 ou 5 ans qu'il a fallu pour redévelopper les nouveaux vaccins, peut-être, bon, en tout cas, cette décision d'OMS de ne pas redévelopper, ou cette absence de décision de redévelopper, a probablement provoqué la mort de 1 ou 2 millions d'enfants dans le monde. Voilà. Donc, je crois que ce sera ma conclusion. L'éthique universelle, elle a quand même ses limites. Et donc, ce qui est bon pour les petits Américains devrait être bon pour les petits Africains, OK. Mais à ce niveau, d'incertitude statistique sur un vaccin, et à ce niveau de différence dans le rapport coût-bénéfice, au sens large du terme, je pense que l'éthique contextuelle, est vraiment quelque chose d'essentiel à prendre en compte. Et encore une fois, ce qui est derrière, d'ailleurs, c'est finalement le respect des pays en développement et de leur capacité de décision, plutôt que l'idée incroyable, finalement, de dire que les pays occidentaux détiennent la vérité, y compris la vérité éthique, et donc doivent l'imposer au reste du monde, ce qui ne peut pas être. Je n'ai fait qu'affleurer des problèmes d'éthique, il y en a beaucoup d'autres, et je m'arrête ici et je suis prêt à répondre à quelques questions.